Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour tout le monde.
Jusqu'à midi et demi, tout ce qu'il faut savoir sur la télé de la semaine, mais aussi ce qu'il ne faudra pas louper dans les prochains jours. Tenez, par exemple, demain soir sur France 5, cette incroyable enquête d'Hugo Clément sur les dauphins.
Ils sont des dizaines de milliers à vivre au large de nos côtes. Malheureusement, ils sont aussi en danger. Ils meurent massivement, asphyxiés dans les filets de pêche. Notre pays est celui qui tue le plus de dauphins dans toute l'Europe. Je vous emmène ce soir sur le front des dauphins.
Hugo Clément sera avec nous tout à l'heure pour nous révéler les coulisses de cette enquête événement. Mais on va bien sûr aussi se détendre en ce début de week-end.
Heureusement, on a un chanteur que vous adorez. C'est bien simple, il vole de tube en tube depuis l'Eurovision. Et son fameux...
a aussi fait danser avec ça.
Je compte à rebours, je gâte ton retour dans tous mes états d'âme. Dans mes états d'âme.
Et la fête continue.
On est tous nés pour faire la fête. Au pire, on la fait dans nos têtes.
C'est cool.
Comme
c'est
si
cool.
On l'avait jamais fait.
Vous l'aurez reconnu avec nous ce matin, Amir. Bonjour Amir.
Bonjour les amis, comment allez-vous?
Eh ben, super bien, nous quand on entend ça, on a la pêche. Hein.
Moi ça fait plaisir.
Vous
ça
verriez comme Jade danse sur vos tubes au bureau, ça fait plaisir à voir.
C'est vrai. Ça, t'avais dit que tu ne dirais pas.
Non, mais je vais faire mieux que ça, peut-être. Je vais mettre les images sur RTL.fr, peut-être. Oui.
Je
ne
peux pas compter sur lui.
Il suffit de me dire de ne pas faire un truc pour que je le fasse. Vous connaissez maintenant Jade.
C'est vrai.
Tout va bien pour nous, tout va bien pour vous aussi. Amir, 700 000 disques écoulés pour vos deux premiers albums, certifiés triple platine et le petit dernier sorti. Il y a quelques semaines, Ressources. Très bel accueil hein, pour cet album. Hein.
Bah ouais, j'ai cette chance là. C'est agréable. Et puis maintenant, évidemment, qu'on attend avec impatience la tournée. Mais
comme tout le monde, écoutez, ouais, j'ai une info. D'ici 10 ans, grand max.
C'est dur, c'est dur.
Alors cet album, chers auditeurs, on vous l'offre dans une version collector, puisqu'Amir va vous le dédicacer, s'il est d'accord.
Mais évidemment.
Voilà. Pour tenter votre chance, direction le compte Twitter dont refait la télé.
Un tout nouveau titre vient de sortir, on en parle dans un instant. Mais d'abord, première question Amir, question télé. Est-ce que vous pensez vous souvenir, Amir, de tout ce que vous avez fait à la télé?
Je me souviens de la plupart. Si vous me le rappelez, je m'en souvenir.
On va vérifier ça tout de suite.
Ok.
Archive ou archifo?
Si vous pensez que ce que Jade affirme à votre sujet est vrai, vous nous dites archive, sinon vous nous dites archifo.
Ok.
Votre première apparition à l'écran, c'était dans le film Le Zèbre avec Thierry Lhermitte. Archive ou archifo?
Archifo, mais ça me rappelle quelque chose.
Bah voilà, vous savez pourquoi aussi. Je parle de zèbre. Il y a quand même une histoire de zèbre à la télévision israélienne.
Ouais, ouais. En fait, la maman d'un pote, elle avait ouvert une marque de maquillage. Et avant la fête de Pourim en Israël, qui est une forme de Mardi Gras chez nous, elle a voulu présenter les possibilités de déguisement et de maquillage qu'elle proposait. Donc elle a demandé au pote de son fils de venir avec elle à la télé. Et j'ai débarqué,
vous
moi
aviez
j'étais
quel
zèbre.
Âge, hein?
Je devais avoir 10, 12, 10, 11 ans peut-être.
Alors mais... malheureusement, le zèbre on l'a pas.
Ouais, mais personne n'a jamais réussi à trouver ces images. En tout cas, ça s'est vraiment passé comme ça pour moi. La première... Après, j'ai pas bougé, j'ai pas parlé. J'ai juste regardé l'écran en transpirant, en attendant que ça se termine. Mais c'était ma première télé, ça, on s'en souvient.
Voilà.
On l'a pas, mais on a quand même une belle archive de la télé israélienne. Votre casting pour la nouvelle star, c'était en
2006.
Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. יש לי דג מלוח בצלחת ותסרוקת לראשי.
Alors ça c'était donc les castings. Après cela, vous allez chanter en direct en prime time. Enfin du moins, essayez de chanter parce que s'agissant d'un prime time un soir, il y a un gros problème.
Ouais.
Le beau roman de Michel Fugain vire au sale moment pour vous.
Sale moment, c'est le cas.
Il se passe quoi?
Ben, il se passe que j'oublie les paroles, que j'ai pas d'expérience, donc je le répète. Déjà, je suis en direct à la télé, il y a des millions de gens, il y a un public dans la salle. Et puis quand on se trompe dans les paroles, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Ben
alors
oui,
je pense qu'un chanteur expérimenté se dirait « The show must go on », on s'amuse. Sauf que moi, En plus, je suis en plein duo, donc j'ai l'impression de gâcher la prestation de mon coéquipier. Et c'est là où je me dis, ben, je perds mes moyens. Je vais m'asseoir sur le sol et espérer qu'on me laisse une seconde chance. On m'a pas laissé de seconde chance. On m'a d'ailleurs renvoyé chez moi. Mais ça a été un moment génial finalement parce que j'ai toujours gardé depuis ce moment-là à la télé cette forme d'humiliation qui n'en était pas une, mais qui quand même était troublante pour un débutant en musique comme moi. J'ai gardé une volonté de me rattraper là-dessus. Et je pense que ça m'a énormément servi, inconsciemment.
Allez, autre archive ou archifo.
Un jour, pendant une émission en direct, vous avez piqué son oreillette à Nikos Aliagas. Archive ou archifo?
C'est archifo, mais c'est pas loin non plus de la vérité.
Voilà.
Ok, mais j'aime bien quand vous me lancez sur des sujets comme ça. Donc finalement, j'ai bonne mémoire.
Hein. Exactement.
On essaie nous pourtant, mais non, on n'y arrive pas là.
En fait, c'est lui qui vous a donné
C'était différent. En fait, je vais préciser, je suis au Energy Music Awards 2017. J'ai l'immense chance de remporter le titre de la chanson de l'année avec ma chanson On dirait. Et Nikos me dit, vas-y, bah, tu vas la rechanter. Et là, je commence à me mettre en condition, sauf que dans le mouvement, parce qu'on a une oreillette pour bien entendre sa voix et tout,
votre tour,
l'oreillette tombe. Mon oreillette de retour.
Attendez, on a l'extrait, Amir. Revivre en ce moment.
On a tout.
Que dit Khan ? L'artiste chante ou pas ?
Allez, c'est parti.
Hop, il a perdu un bout d'oreillette. Et hop, en plus, elle est tombée dans le... à l'intérieur du grillage. Voilà, ouais, ça arrive en direct, mais c'est extraordinaire. J'adore ces moments. C'est pas grave, je vais te donner les miennes. Tu l'as ? T'as perdu un bout d'oreille ?
Amir,
on dirait.
Eh ben, on dirait que c'était un peu compliqué ce soir-là.
Oui, oui, c'est sympa, Nikos. C'est ces moments de 30 secondes qui durent comme une éternité. Nikos, ouais, a été adorable, il me propose son oreillette, mais forcément, c'est moulé. Donc, ça va avec son oreille, mais pas avec la mienne. Alors, j'insiste pour la trouver. En même temps, les équipes très professionnelles de techniciens arrivent par derrière pour me donner des oreillettes de rechange et tout. Mais j'ai pu, j'y suis arrivé. La musique a commencé, j'ai eu le temps de la mettre dans l'oreille et de lancer un dernier on dirait qui était chanté en chœur par le public. C'était un des plus beaux moments de ma carrière en télé.
Allez, dernier test de mémoire.
L'une de vos fans avec un tatouage Amir sur le bras dans une émission de télé, Archive ou Archifo?
Ah, c'est Archive.
Ouais.
Archive.
Vous vous souvenez où?
Dans Qui veut gagner des millions.
Absolument.
Oh, mais il est imbattable, c'est incroyable.
Bah, bien sûr, on a l'extrait.
Ah. Et il a des fans, Amir. Vous avez des fans de dingue. Vous avez vu la jeune fille qui est là? Regardez.
Ouais, je sais, je connais, j'ai déjà.
Elle a le tatouage.
Et ça m'intimide beaucoup, mais je suis touché par ce qu'elle a
bien
fait.
Bien sûr. Et monsieur, il a Chantal là-dessous, mais un endroit qu'on peut pas montrer.
Quand on dit que vos fans vous ont dans la peau, Amir, c'est parfois au sens propre. Certaines de vos fans vont encore plus loin. Il paraît que vous recevez parfois des cadeaux un peu coquins, Amir.
Ah bon?
Qu'est-ce qu'on peut raconter? En fait, le gag est pire encore parce que c'est pas seulement que j'ai retrouvé un paquet dans ma loge avec des sous-vêtements, c'est que ma première innocente pensée quand je trouve ces sous-vêtements, c'est bah tiens, on a offert un cadeau à Lital, mon épouse.
Eh oui.
Donc je suis trop content, je le sors,
oh là là.
Je fais une photo avec, je lui envoie, je lui dis tiens, t'as reçu un slip. Et quand je termine de déballer tout, je trouve un papier à l'intérieur qui dit bah tiens, c'est pour toi, je n'ai pu les porter que pendant 15 minutes. Mais je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois.
Le moment embarrassant.
Évidemment que j'ai eu des.
Mais là, la photo était déjà partie. Et Lital a dit oh, ça me plaît bien.
Pas du tout.
Amir, refait la télé ce matin avec nous sur RTL. On se retrouve tout de suite.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Dans ce cœur où
et je cours, j'ai un cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle. Dans ce carrousel,
oui, je cours.
Un duo avec la chanteuse Indila, c'est votre nouveau titre, Amir. Il s'appelle Carrousel.
Très bonne idée de travailler à chercher pour ce duo. Vos univers se marient à merveille.
Magnifique.
Ça fait plaisir. Mais ouais, c'est ce qu'on pressentait en fait et on s'est... On s'est lancé ce défi de faire une chanson ensemble.
Un petit rappel, Indila, elle avait signé un gros tube il y a quelques années.
Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse.
Dernière danse, c'était il y a 7 ans déjà. Et depuis, elle s'est faite beaucoup plus discrète. Elle n'a rien sorti pendant 4 ans.
Vous aussi, Amir, vous avez disparu hein, pendant plusieurs mois. Vous avez tout quitté, réseaux sociaux, médias. Vous étiez arrivé à un trop-plein. Vous aviez moins l'envie.
C'était pas forcément un trop-plein parce que je suis un travailleur acharné. J'ai une vraie hyperactivité en moi qui a besoin d'être canalisée vers quelque chose. Donc, vu que j'ai cette chance-là de pouvoir faire de ma passion mon quotidien, je me lasse jamais. Mais il est vrai que je sentais que je prenais un peu de distance par rapport à des repères qui ont toujours été là pour moi. Faut comprendre que j'ai commencé à chanter, j'avais 29 ans. Donc, la grande majorité de ma vie, j'ai pas baigné dans ce star system, dans la notoriété ou dans une carrière qu'il faut développer. Et ces choses-là m'ont toujours été très précieuses et très protectrices dans mon parcours. À partir du moment où j'ai capté que je commençais à être un peu trop dans la musique et un peu moins avec les miens, là, je me suis dit, c'est le moment de s'arrêter avant que ça devienne néfaste. En plus aussi, il y a une pensée pour le public. Est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation à un moment? Mais c'est vrai qu'on battait le fer tant qu'il était chaud, qu'un succès nous donnait envie d'en générer un autre et d'en générer encore un autre. Et à un moment, il faut avoir le courage de dire maintenant, je m'arrête.
Vous avez appris à faire attention au trop-plein médiatique aussi, j'imagine, depuis le début de votre carrière. Mieux doser.
Je pense en effet. Je pense aussi qu'on a moins besoin d'occuper le terrain quand les gens nous connaissent déjà. On se familiarise. On n'a plus besoin de... C'est un peu comme une relation amoureuse quand au début, on est obligé de se voir trois fois par jour et puis plus temps passe, plus on s'habitue, plus on apprécie aussi de se languir. Donc c'est comme ça que je le vois.
Besoin de se ressourcer avec cette pause, d'où le titre de ce nouvel album, Ressources, qu'on a hâte de découvrir sur scène lors de votre prochaine tournée Amir, qui aurait normalement dû débuter dans 3 jours, le 23 février. Évidemment, il va encore falloir patienter. Vous avez vu cette semaine, on a parlé de concerts tests organisés dans les prochaines semaines à Marseille et à Paris.
Initiative.
Ça vous rend optimiste ça?
Bien sûr, mais ça veut dire qu'on commence à comprendre que c'est un vrai besoin. Jusque-là, j'avais l'impression que c'est passé en bas de la pile des priorité. Et quand on fait des efforts comme celui-ci, je salue l'initiative parce que je pense qu'on commence déjà à se dire faut que ça reprenne d'une manière ou d'une autre.
En attendant de retrouver le public, reste des concerts en direct sur Internet. Il y a un projet en ce sens pour vous aussi?
Absolument. Bon, c'est vrai que l'ambition initiale, c'était de faire en sorte que ce live stream se fasse le jour où on devait initialement démarrer ma tournée, donc le 23 février. Malheureusement, c'est pas possible parce qu'il y a ce couvre-feu et beaucoup de choses qui nous ont contraints à reporter un petit peu cette échéance. Mais c'est pas grave, je préfère me dire qu'on va rencontrer le public aux alentours du mois de mars pour la première fois, pour des retrouvailles, même si c'est virtuel, que de devoir attendre l'été ou l'automne que ma tournée reprenne parce que ça va être bien, bien trop long.
Amir, on rappelle que vous avez fait des études de dentiste. Eh bien, ce qui arrive est à peu près aussi agréable que la fraise.
RTL. On refait la télé.
Le c'est ce qu'on dit.
Le c'est ce qu'on dit.
On a des rumeurs sur vous. Dites-nous si c'est de l'info ou si c'est de l'intox.
On dit qu'après avoir débuté comme candidat, on s'en rappelle, dans The Voice, vous aimeriez maintenant devenir coach de The Voice, c'est vrai?
J'ai pas de réponse définitive pour cette question, parce que d'un côté, je vois mes amis qui ont fait The Voice briller en tant que coach, les artistes de ma génération. Mais moi, longtemps, je me suis senti peut-être encore trop jeune, pas assez mûr pour assurer ce rôle. Je trouve que c'est une vraie responsabilité de pouvoir transmettre un savoir-faire musical. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. J'ai pu grandir un petit peu et faire un bout de chemin. Donc, ça reste un pourquoi pas, parce que c'est pas une question sur laquelle je me suis vraiment sérieusement penché. Mais je ne suis pas fermé comme je l'étais auparavant.
Alors, on peut se faire une petite idée du coach que vous seriez dans The Voice avec cet extrait du concours de sélection du candidat français à l'Eurovision que vous avez présidé sur France 2. Vous avez parfois été cash, hein.
André Ahmad. Amir, je vous ai vu noter beaucoup de choses.
Oh là.
Oui, il y a du bien, il y a du moins bien, je trouve. Pour être vraiment sincère, je trouve la chanson très efficace, moderne, dans l'air du temps. En revanche, il y avait quelque chose dans les mouvements qui me semblait un peu moins naturel, un peu mécanique. Surtout pour toi, Kevin, je sais pas si c'est vraiment 2021.
Et bim, dites donc, quand il s'agit de musique, ça rigole plus, Amir. Hein.
Écoutez, je suis particulièrement sensible au sujet de l'Eurovision. J'ai envie de nous voir gagner. Et évidemment, que quand on me propose de participer, de présider le jury, faut que je prenne le rôle au sérieux et que je sois franc. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous faire avancer. J'ai appelé ce jeune et adorable Kevin le lendemain pour lui dire déjà que j'étais désolé si... Bon, après, ça fait partie de ma personnalité. Je peux pas rester sur une note négative et ça m'embêtait un peu. Donc je l'ai appelé, j'ai demandé son numéro de téléphone à la production juste pour lui dire que c'était vraiment constructif. Dans l'idée, je voulais à tout prix qu'il sache ce qu'il doit emporter avec lui s'il part à Rotterdam et ce qu'il doit laisser peut-être à la scène du concours de sélection. et qui était moins bon.
Voilà. C'est là que ça va être compliqué si vous faites The Voice, c'est que vous devez appeler tous les candidats que vous n'avez pas sélectionnés le lendemain, Amir. On va pas s'en sortir.
Mais,
hein.
c'est sûr. En fait, c'est difficile, surtout quand c'est de la première fois. Enfin, j'ai pas l'habitude, moi, de critiquer des gens à la télé. Après, je savais que je devais à tout prix dire ce que je pensais.
À l'issue de cette soirée, c'est donc Barbara Pravi, hein, comme on le sait, qui a été désignée pour représenter la France à l'Eurovision.
Alors évidemment, on attend tous le pronostic de l'un de nos meilleurs candidats de ces dernières années, puisque vous avez fini sixième en 2016. Avec Barbara Pravi, vous pensez qu'on peut viser quelle place?
Pour moi, c'est un top 3.
Ok, c'est enregistré. On verra ça. Donc nous, on le garde, hein.
Non mais gardez-le, de toute façon le lendemain de sa sélection dans l'émission sur France 2, elle était déjà numéro 1 des bookmakers. Mmh. Après c'est un équilibre très fragile chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, mais c'est déjà prometteur d'en être là. J'ai moins aimé son clip, je dois l'avouer, que sa mise en scène télé, mais c'est la mise en scène télé qu'elle va représenter à l'Eurovision, donc c'est ce qui compte.
Top 3, ouais, super optimiste.
Je le sens comme ça.
Elle a
énormément de charme, évidemment.
Bon, on croise les doigts, mais nous, on avait une autre idée de candidate potentielle avec Jade. On aurait bien aimé Élodie Gossuin, avec sa fameuse reprise de votre tube J'ai cherché.
Bonsoir, France, Élodie.
Ah, Élodie Gossuin, en direct de la Tour Eiffel.
You
Figurez-vous, c'est le plus bel hommage qu'on ait jamais fait à cette chanson.
Vous n'en voulez pas de nous avoir volé la vedette
elle
le soir de l'Eurovision?
Elle a rendu éternelle, la chanson.
On a quasiment presque plus parlé de son You que du vôtre, hein, je vous signale.
Elle sait que je l'adore. Et
nous aussi, on l'embrasse.
Elle est merveilleuse. Tellement naturelle, elle ne s'est pas posée de questions. C'est pour ça que c'est élégant pour moi.
Allez, autre rumeur. On dit, Amir, que vous revenez tout juste du tournage de Rendez-vous en Terre Inconnue, l'émission de France 2.
J'ai le droit d'en parler.
Donc la réponse est oui.
Il faut que je dise je passe.
Joker.
Ouais, Joker. Je suis très mauvais, moi je suis pas un bon menteur, ok les gars. Venez, on passe à la prochaine question.
Alors on se souvient que vous aviez déjà participé à une autre émission d'aventure en 2018, l'aventure Robinson.
Ok, ça on peut en parler, ouais.
Voilà.
Non, on ne dira pas qu'il a fait hors du mental.
Non, on ne le dit pas. Vous vous étiez retrouvé sur une île déserte avec Christine Bravo.
Amir, tu as de quoi couper?
Non, il est tombé mon
couteau. Tu as le couteau?
Il est tombé. Où est-ce qu'il est tombé?
T'as perdu ta ficelle et ton couteau?
Ouais, j'ai des sparadraps à peu près sur tous les doigts.
Moi qui pensais que t'étais un warrior. Mais t'es une chochotte.
Amir, honnêtement, qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pendant cette expérience? La faim, la soif ou Christine Bravo?
Tout le monde pose cette question, vous vous rendez pas compte.
Qu'on embrasse,
à quel point.
Bien sûr.
Et moi, je l'embrasse comme une grande sœur. Parce que ça a été 100 fois plus intense et plus cool à vivre du fait qu'elle soit ma coéquipière. Et je suis pas une chochotte, là. Vous avez sorti du contexte, le truc.
Donc, si je comprends bien, vous relevez à peu près tous les défis qu'on vous lance à la télé, Amir, sauf un. Pourquoi vous avez refusé de danser avec les stars?
J'ai refusé danser avec les stars à plusieurs reprises parce que j'ai principalement eu des soucis de planning. J'ai beaucoup d'admiration pour cette émission et j'ai très envie d'apprendre à danser. La dernière fois, j'ai failli dire oui. Et je suis tombé de scène, mon poignet s'est cassé en mille morceaux. Et le médecin m'a dit, c'était vraiment à quelques semaines avant le début, le médecin m'a dit que c'était impossible, que le risque était trop élevé, donc ça a fait en sorte que je ne le fasse pas. Après on sait jamais ce que nous réserve l'avenir, mais le bon moment était choisi en 2019 et finalement... C'était le bon Dieu qui a décidé autrement.
Donc c'est pas impossible, peut-être sur l'une des prochaines saisons, si tout va bien
jamais
pour vous.
Jamais impossible. Mais donnez-moi des défis, je suis avide de ça.
Parce que c'est énormément de boulot, hein, danser avec les stars.
Ouais. Je sais, j'ai vu le résultat sur mes amis. Apprendre à danser, c'est un truc qui me déplairait pas.
Voilà, qui va faire le bonheur de la production. S'ils nous écoutent ce matin, ils en seraient ravis. Une courte pause, Amir, et on se retrouve dans un instant avec le quiz de l'info média de la semaine. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussart. Jade, Éric Dussart.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Comment il va, le Germain Sastre?
Il va très bien. Bonjour
Germain.
Bonjour Jade. Bonjour Amir.
Bonjour Germain.
L'actu télé en partenariat avec Télé Loisirs. Et ce matin, c'est Amir qui nous dit s'il croit ou pas aux infos qu'on lui donne.
On pourra bientôt composer soi-même son propre journal télé, choisir les sujets qui nous intéressent et donc avoir un JT personnalisé. Amir, vous y croyez ou pas?
Oui, ça m'a pas l'air compliqué. Hein.
Ouais, c'est une bonne idée.
Oui, effectivement, c'est vrai. Alors, à l'occasion des 40 ans de CJT, TF1 veut innover sur le digital en proposant notamment une sorte de journal à la carte d'ici la fin de l'année sur sa plateforme internet. Alors, il s'agira d'une première mondiale. Et concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, les téléspectateurs pourront choisir la durée du JT et les thèmes d'actualité hein, traités selon leur envie, sport, environnement, culture, politique. Et ensuite, l'intelligence artificielle leur proposera une édition personnalisée qui comprendra aussi les informations les plus importantes du jour. Et l'objectif, c'est bien sûr d'attirer les jeunes hein, qui se détournent de plus en plus de la télé.
Alors, il va falloir consolider le système informatique de TF1 quand même d'ici là, parce que vous avez vu jeudi, gros bug qui a empêché le journal de 13h de TF1 de commencer à 13h. Il a commencé à 13h38. En tout cas, très bonne idée. Il faudrait que l'équipe TV fasse ça aussi. Comme ça, je pourrais sélectionner tous les sujets de la journaliste Karine Galli. Je ne sais pas si vous l'avez vu en direct de Barcelone pour le match Barça-PSG. Il y avait des supporters catalans qui étaient passablement déchaînés autour d'elle. Mais alors, elle ne s'est pas démontée.
Karine, moi, je suis surpris du nombre de personnes qui est autour de vous.
Mais en fait, ça peut se comprendre parce que le couvre-feu est qu'à 22h à Barcelone. Donc, ils ont le droit d'être dehors. Et vu qu'ils ne peuvent pas être à l'intérieur du stade et qu'ils s'ennuient comme des rats morts, a priori, bah, ils sont devant le stade. Voilà. Honnêtement, à part ces abrutis et ces gens très grossiers, vous êtes très élégant, monsieur.
Je l'adore. C'est j'aurais bon, pu regarder rien que pour ça.
C'est dire.
Le sport, vous ne vous contentez pas de le regarder à la télé, vous en faites beaucoup aussi, Amir. Vous faites toujours des triathlons.
Oui, oui. Après, les deux derniers ont été annulés à cause de la crise sanitaire. C'est comme les concerts, j'attends que ça reprenne.
C'est quoi le menu d'un triathlon? Faites-nous rêver.
Alors moi, je fais des semi-Ironman. Dans cette distance-là, on commence par 2 km de nage, puis 90 km de vélo et un semi-marathon, 21 km de course à pied.
On fait ça avec Jade aussi, sur 10 ans. 90 km de vélo.
Mais j'ai aucun mérite, c'est mon batteur qui est complètement accro au truc. Et puis,
enfin, j'ai aucun mérite de faire 90 km de vélo, un peu de mérite quand même.
On s'en détourner avec lui, et enfin, on se sent trop jaloux, donc il nous entraîne avec lui faire du sport. Puis, on est
là, ça s'appelle pas faire du sport.
C'est du masochisme.
Pire.
Allez, deuxième info ou un tox.
Après les humains, Michel Simès va bientôt soigner les animaux. Il va présenter le magazine de la santé des animaux sur France 3. Ça vous semble plausible, Amir?
Un tox.
Un tox, Germain?
Oui, c'est ça, effectivement, c'est une intox.
C'est une intox,
exactement. Oui.
Un médecin et un vétérinaire, quand même.
Non, oui. Pas de nouvelle émission pour Michel Simès, mais un téléfilm pour France Télé. Son nom, La Doc et le Veto. 3 ans après avoir joué un épisode de Meurtra sur France 3, cette fois-ci, il incarnera un vétérinaire d'un village d'Auvergne, véritable désert médical. Un veto qui devra faire équipe avec une jeune femme médecin dans le cadre d'une enquête sur de mystérieuses morts de brebis à découvrir le 9 mars sur France 3.
Et vous, Amir, quand est-ce que vous franchissez le pas qu'on vous voit dans une fiction
de
télé?
Alors, on m'a vu dans une fiction de cinéma déjà. Et c'était
adorable avec Elsa Zilberstein.
Silverstein, ouais. Un très très bon moment.
C'était court. Hein.
C'était court et puis je me suis joué moi-même, mais c'était pour le clin d'œil. Maintenant, c'est vrai que c'était fascinant à vivre et que ça donne envie de renouveler le truc, mais je suis chiant. Voilà, je fais comme avec mes chansons, j'essaye que ce soit très bien.
Donc t'as tout ce que vous recevez pour l'instant.
En tout cas que ça me plaise.
Vous attendez le scénario parfait.
Et que je m'y retrouve, ouais.
Ça pourrait être de la fiction télé, les plateformes, tout ça, il y a des propositions en sens.
Mais ce qui est cool déjà, c'est qu'on croit en moi parce qu'on me propose pas mal de choses. Et je suis sûr qu'un beau jour, je dirais oui, faut vraiment que je me sente à l'aise avec cette première tentative. Parce que je me dis que si elle est foirée, il n'y en aura plus de deuxième. Donc,
C'est quoi votre rôle rêvé?
Ce sera cliché de dire ça. Mais j'ai toujours aimé les comédies romantiques.
Oh. Ah.
Voilà.
Ça, en même temps, vous imaginez
un
bien là-dedans.
Un prince charmant. Ouais.
Je ne sais pas pourquoi, mais on le voit bien là-dedans. Ouais. Allez, dernière info à vérifier.
Changement majeur en vue pour la 5e saison de l'émission Mariés au premier regard, qui démarrera le 8 mars sur M6. En raison de la situation sanitaire, les mariages n'auront plus lieu à la mairie, mais en visioconférence. Vous y croyez, Amir, ou pas?
Oui.
Non, désolé, c'est
enfin,
faux.
On l'a eu. Voilà.
Sur la dernière, on a eu faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette édition a été bouleversée par la pandémie. Les cérémonies ont été reportées de 3 mois à cause du premier confinement. Ils ont par ailleurs dû se dérouler en extérieur sur le parking de la mairie.
Wow.
Autre
sympa.
Précaution, confinement et test PCR pour tous les participants. Et un voyage de noces en France pour les jeunes mariés qui, rappelons-le, c'est le concept, ne se rencontrent que le jour de leur mariage après des tests scientifiques. Une expérience qui tente visiblement de plus en plus de monde. 10 000 candidatures reçues par la production pour cette nouvelle saison. Une 6e est en cours et moi j'aimerais bien vous inscrire, Eric, pourquoi pas, ça pourrait être sympa.
Non, parce que le principe c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui écrivent quand même. Hein,
vous voyez, avec vous, il y en a plein.
En revanche, Amir, est-ce qu'il aurait pu faire une émission pareille? Découvrir votre chère tante, votre future épouse, le jour de votre mariage, ça aurait été possible ça pour vous?
Non. pas du tout. Hein. Pas du tout. Le lien du mariage est trop sacré pour l'aborder avec autant de légèreté. Même si je doute pas que parfois ça puisse marcher, c'est risqué comme point de départ.
Vous avez poussé le bouchon un peu loin pour votre demande en mariage, c'est le cas de dire. Vous avez imaginé une mise en scène absolument folle.
Oui, oui, oui. Alors pour
vous
moi,
avez fait quoi
à cette époque-là, sur les bouteilles de Coca en Israël, il y avait des espèces de languettes publicitaires avec des prénoms et tout. Donc si tu t'appelais Elodie, t'allais acheter la bouteille Elodie. Si tu t'appelais, il y avait ça aussi sur les canettes en France. Et elle m'a dit pourquoi t'en ferais pas. Plein de languettes avec l'Ital veux-tu m'épouser. Je dis, c'est pas bête comme idée, c'est pas bête. Donc je suis allé dans une imprimerie, on a fait 3000 languettes, j'arrive au supermarché du coin et je leur demande, mais pas pour les Coca, parce que je voulais que ce soit un peu plus classe.
Ou de Pepsi, faire... ou Sprite, évidemment.
Oui, bien sûr.
Ou Viandox.
Voilà. Ça existe encore.
J'ai demandé sur les bouteilles de vin. Et après, l'histoire, c'est qu'on va à un dîner et je m'arrête au supermarché, je dis, on va pas venir les mains vides, est-ce que tu peux m'aider à choisir une bouteille de vin? Donc on descend dans le supermarché, je cours en faisant un espèce de raccourci pour l'attendre précisément là où il y a les bouteilles. Et quand elle arrive, elle commence à chercher les bouteilles et tout ce qu'elle voit, c'est 3000 fois son prénom avec une demande en mariage. J'ai eu le temps de me mettre à genoux, de sortir la bague. C'était filmé. Après, il y a une chanson que j'ai demandé qui est...
Ah non, mais Amir est produit, attention. Hein,
et tous les copains qui s'étaient cachés, qui ressortent. Et... Bon, c'était vraiment un moment...
C'est du James
Cameron.
Mignon.
Un moment fort.
Gros stress, il fallait que quand même le scénario fonctionne.
Je me suis décomposé sur cet instant-là.
Oui,
si elle avait dit, j'ai pas envie de boire de vin ce soir, non, je vais au rayon.
Elle a dit oui. Encore heureux qu'elle ait dit oui.
Vous avez fait une chanson, c'est vrai. La voici.
Toi, ne m'en veux pas si je te questionne devant Dieu et tous les hommes. Veux-tu être la personne? J'ai pas des craintes, juste une promesse que je veux ta main jusqu'à la fin.
Toi, encore un très joli titre de cet album, Ressources, qu'on vous fait découvrir. Amir est notre invité. Merci, Germain Sasse.
Merci à vous.
On fait la télé, ça revient dans deux minutes. À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Merci d'avoir choisi RTL pour commencer votre week-end. Amir est notre invité pour refaire la télé. Et dans un instant, c'est Hugo Clément qui nous rejoint en studio. Il est midi.
Merci Sébastien. Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL avec Amir pour son nouvel album qu'on vous offre dédicacé sur notre compte Twitter.
Nous aussi, on a un petit cadeau à vous faire, Amir.
Avec plaisir, Eric.
Une chanson que vous adoriez, paraît-il, quand vous étiez petit.
C'est un amour de vacances, oh. Une histoire sans lendemain, mais à laquelle on
va.
Christophe Ripper.
Non, bah dis donc.
Il y a un cadeau.
Sacrée soirée.
Non, mais on a juste la chanson. Non, mais il n'y a pas Jean-Pierre Foucault, on n'a pas Éventil, on n'a pas la prod. C'est comme ça, nous on a juste le disque. On rappelle qui c'était ou pas, Christophe Ripper, déjà pour commencer.
Bien sûr, il jouait dans les séries d'AB Productions sur TF1.
Premier baiser.
Ouais. Par exemple. J'étais gamin, j'avais 7 ans, 8 ans, et cette chanson, je me rappelle, était. C'était génial.
Premier baiser, série que vous regardiez. C'était pas la seule série AB que vous regardiez. Apparemment, vous étiez aussi fan de Salut les musclés. Donc, on est dans la musique. Hein.
En effet.
Hélène et les garçons. Absolument. Et même les filles d'à côté. Ça, c'est très pointu.
Ouais.
Ça, c'est réservé aux seuls spécialistes.
Ouais, je m'en souviens très, très bien. Ouais. Je regardais ça.
Alors maintenant,
assidûment.
Maintenant qu'on sait ce que vous regardiez quand vous étiez petit, vous allez nous dire ce que vous regardez aujourd'hui à la télé maintenant.
Le plateau télé de l'invité.
On vous propose des programmes télé qui vont bientôt passer. Vous nous dites ce que vous avez envie de regarder.
Ce soir, The Voice ou les comiques préférés des Français sur France 2 ?
The Voice.
Vous vous souvenez de ce que vous aviez chanté, évidemment, pour votre audition à The Voice, audition à l'aveugle en 2014 ?
Bien sûr. Candle in the Wind, Elton John.
And it seems to me you lead your life like a candle in the wind. Never got you to claim it to.
Bon alors, ce qu'on veut savoir, Amir, quand on entend tout ça, vous avez quatre coachs qui se retournent. Qu'est-ce qui se passe là ?
Je pense que je mesurais pas, en fait. Je mesurais pas ce que ça représentait. J'étais tellement loin dans ma tête. Je venais de quitter Tel Aviv où j'ai passé la grande majorité de ma vie jusqu'à ce moment-là. De quitter mes études de chirurgie dentaire pour débarquer sur ce plateau. Je pense que je le vivais avec une certaine inconscience qui a certainement joué en ma faveur parce que ça détend en fait de vivre les choses de cette façon.
Il y avait quasiment pas d'enjeu pour vous lorsque vous êtes présenté sur cette scène.
C'est pas qu'il y avait pas d'enjeu, c'est que je me suis dit qu'il y en ait 0, 1, 2, 3. En plus, je connaissais pas très très bien ces artistes parce que je vivais pas à Paris à l'époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai abordé le truc sans vraiment piger. C'était beaucoup trop grand pour moi, en fait, pour réaliser.
Formidable aventure que The Voice, et dire que vous avez failli ne jamais participer à The Voice à cause d'une histoire de téléphone portable.
Je vivais à Tel Aviv, comme je viens de le dire. Oui. Mais je faisais énormément de voyages en France, parce que j'ai toute ma famille ici. Donc je passais peut-être un quart de l'année à Paris. Et au moment où la production de The Voice me téléphone, j'ai mon téléphone avec la puce israélienne dans ma poche, mais je vois un numéro français s'afficher. Donc forcément, ça intrigue parce que qui en France aurait mon numéro israélien ? J'ai pas un rond et je sais que ça va me coûter très très cher de répondre, mais je réponds quand même. Par curiosité. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est la production de The Voice. Est-ce que c'est bien Amir ? Oh mon Dieu, là je me décompose. Et où est-ce que je suis à ce moment précis ? Je suis avec un pote qui est en train de faire un dépôt de plainte au commissariat. Je leur dis, attendez deux minutes, j'ai pas de batterie, je vous donne un numéro de téléphone. Et là je viens voir le commissaire, alors que c'est un mensonge fini. Hein. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone de votre commissariat ? Parce que j'ai un appel important à recevoir. Je suis vraiment désolé, j'ai pas de batterie, mais je peux pas louper l'appel, c'est très important. Lui, il a cru qu'il y avait un enjeu de vie ou de mort. Ouais. Il m'a donné le numéro, je le transmets. Et donc, The Voice me rappelle et je leur parle pendant 30 minutes devant l'officier de police au commissariat.
Tout a commencé dans un commissariat. Voilà. L'aventure The Voice a commencé dans un commissariat.
Inoubliable.
Incroyable.
Incroyable histoire.
Allez, autre choix sur votre plateau télé.
Mercredi soir, est-ce que le diplômé en chirurgie dentaire que vous êtes aura envie de regarder une série médicale qui s'appelle Doc sur TF1 ou plutôt Top Chef sur M6 ?
Oh, le choix est difficile, mais je pense que je regarderai Top Chef.
Docteur en chirurgie dentaire, rien que ça. Du coup, est-ce que vous êtes un maniaque des dents, Amir ?
Je l'étais jusqu'au moment où il y a d'autres choses qui sont devenues plus intéressantes. Mais
non, je veux dire, par des formations professionnelles sur les plateaux télé, par exemple, est-ce que vous avez tendance à regarder la dentition ?
Avant, beaucoup plus que maintenant, quand on est étudiant en dentaire et que c'est tout ce qui compose notre monde, on est obsédé par les dents des autres et à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, on lui regarde forcément sa dentition. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup moins ça, même si ça reste quand même un sujet que je maîtrise assez bien, mais je me souviens qu'à l'époque, mon père me disait, tiens, heureusement que tu fais pas des études d'urologie.
En effet. Papa a raison.
Proctologie, ça pourrait être
terrible. Aujourd'hui, j'y pense beaucoup moins. J'y pense beaucoup moins parce qu'on baigne pas dedans.
Vous n'êtes pas la seule personnalité à avoir commencé comme dentiste. C'est aussi le cas de Miss Univers, Iris Mittenard. Elle en a parlé avec Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé sur France 2.
Elle a commencé Miss France, elle est devenue Miss Univers. Et au départ, vous étiez dentiste. Est-ce que vous avez rencontré, je me disais, Amir ? Parce qu'Amir, avant d'être chanteur, il était dentiste,
ouais,
lui aussi.
Ouais, exactement.
Et alors, vous êtes rencontré, il y a des conversations. Quand un dentiste rencontre une autre dentiste.
On parle de dents, on parle d'études.
Vous parlez de dents,
Voilà comment provoquer un fou rire. Le simple qui
procure.
Avec Laurent, faut toujours être très très prudent.
Toujours.
Une courte pause, Amir, et on reprend votre plateau télé, les programmes télé de la semaine prochaine. Camille va regarder, à tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Tu m'as conseillé d'écrire en anglais. Ça marche mieux que le français. J'ai sorti mes classeurs. J'ai pris de là n'importe quoi. Ça donne ça. You can tell me where is Brian. Brian is in the kitchen.
Vous connaissez cette parodie, Amir ? C'est ça,
la parodie. J'ai déjà vu, mais il y a eu tellement de parodies de J'ai cherché à l'époque.
Alors lui, c'est Pierre Do, animateur sur une radio suisse. Très drôle, mais alors injuste sur votre niveau d'anglais, parce que vous êtes parfaitement bilingue, Amir.
Même trilingue parce que je parle hébreu aussi, mais en fait, quand on vit en Israël, on n'a pas le choix. Parce que personne ne parle hébreu à l'extérieur de ce pays-là, donc forcément, on apprend tous l'anglais très très tôt. À l'époque, ça me faisait bizarre de voir qu'en France, on maîtrisait moins l'anglais, à l'époque, quand j'étais petit. Mais ça s'est énormément, énormément amélioré depuis, et puis j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de Français parlent super bien anglais aujourd'hui.
L'anglais est désormais interdit dans les chansons qui représentent la France à l'Eurovision, après un coup de gueule du ministre de la Culture l'an dernier, qui avait dit, d'un très mauvais œil, qui est de l'anglais dans les chansons représentant la France à l'Eurovision. Bonne ou mauvaise idée de procéder proscrire l'anglais dans les chansons françaises.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est interdit? Je suis pas
interdit, non, mais en tout cas très fortement déconseillé. C'est-à-dire qu'ils n'y vont plus.
Conseillé par le ministre.
Toujours. Ça avait été assez mal vu, en tout cas.
Quoi qu'il arrive, même à mon époque, un certain André Valigny, qui était secrétaire à la culture aussi, qui s'est exprimé contre le fait que j'ai des paroles en anglais dans ma chanson. Mais comme on l'a dit il y a quelques minutes, l'anglais c'est une langue que j'ai toujours parlé. J'ai commencé, mes débuts dans la musique étaient avec des chansons et des reprises en anglais. Mais au-delà de tout ça, j'estimais, moi, que de tout mon album, la chanson que j'ai envie de proposer à l'Eurovision est justement celle qui est aussi accessible pour le reste de l'Europe. Faut pas oublier qu'on se représente face à eux. Donc d'une certaine façon, faut aussi se rapprocher d'eux, leur montrer notre langage. Et c'était l'approche, c'était ma stratégie, en tout cas à l'époque, parce que, et je considère d'ailleurs qu'elle a très très bien marché.
Bah oui,
c'est pour ça qu'ils ont adhéré à la chanson, et c'est quelque part pour moi c'était même intelligent de leur dire je suis français, mais je parle aussi une langue que vous pouvez comprendre, et mêler deux langues dans une chanson, c'est pas le truc le plus commun, et pourtant ça a fait beaucoup de bien à notre candidature cette année-là. Donc j'y vois aucun inconvénient, au contraire, ça rend les gens plus intéressés et plus aptes et curieux de jouer une chanson qui finalement a plus de 50% de français en elle. Donc à mon sens, on a que fait exporter la culture et la musique française grâce à cette petite ruse anglophone.
Allez, on retourne à votre plateau télé, on a un autre choix de programme à vous proposer.
Vendredi prochain, France 3 diffusera un documentaire sur Serge Gainsbourg à l'occasion des 30 ans de sa disparition. C'est ce que vous allez regarder, vous serez plutôt devant une nouvelle émission de TF1 qui s'appelle Les Duos Mystères.
Là, vous me prenez de court parce qu'il y a forcément une émission que je regarderai et une autre que je regarderai en replay. Serge Gainsbourg, je suis un grand fan. J'ai fini il y a 2 mois à lire une biographie de 600 pages sur lui. Beaucoup d'admiration et toujours curieux parce que son parcours est intéressant, riche.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'anti-Amir en termes d'image, Gainsbourg ? C'est-à-dire que lui était le roi de la provoque, vous êtes tout sauf ça.
Je pense qu'on a beaucoup de différences, mais aussi pas mal de points communs. Donc, on a tous les deux besoin d'écrire, de composer nos chansons. Figurez-vous que c'était un homme peut-être roi de la provoque en médias, mais extrêmement humble, timide et gentil et généreux hors caméra. Donc, après, je suis pas en train de me faire des éloges du tout, mais c'est pas ce qu'on croit seulement, Serge Gainsbourg. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et il me sert de modèle à plein d'égards. Après, les duos mystères, c'est une émission qui m'intrigue. Je devais y participer, mais je suis parti faire un tournage très loin. Donc ça
c'est pas de quoi vous voulez parler.
Ça s'est pas fait, mais je suis curieux de voir le résultat. Et puis c'est mon ami Mathieu Verne qui a proposé l'émission, donc
qui produit déjà la chanson secrète, oui, notamment sur TF1. Voilà. On va expliquer ce concept des duos mystères, Jade.
Alors, une star de la chanson va partager un duo avec un autre artiste dont elle ignore l'identité. Les deux ne se voient pas. Ils sont séparés sur scène par une cloison. Alors, vous, Amir, avec qui vous rêveriez de partager un duo mystère ?
S'il fallait en choisir qu'une, vraiment. Mais même, puisqu'on est dans l'impossible, ça peut être une personnalité disparue. Hein. Vous avez même le droit de demander Sinatra.
Moi, j'aurais adoré chanter et c'était vraiment pas loin d'arriver. Puis malheureusement, bon, on ne peut pas revoir les décisions du ciel, mais Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour, j'ai eu l'occasion, à la dernière année de sa vie, de beaucoup me rapprocher de lui. D'avoir des échanges merveilleux, on est allé manger à 2 reprises ensemble, je suis allé le voir en concert, et ça donnait l'impression que quelque chose pouvait se passer. En tout cas, lui était aussi partant. Donc, pour rattraper cette petite injustice de la vie, j'aurais bien aimé que ce soit lui derrière le rideau.
Et Mylène Farmer.
Mylène Farmer, pourquoi pas, ouais. Ma première chanson, c'était une reprise de Mylène Farmer.
Ah, vous voulez dire le remix?
Ouais.
Le remix de Désenchanté par un DJ mondialement connu. Au Fernissime. C'était il y a 10 ans déjà, hein, 2011, avant que tout ça ne commence avec The Voice. Vous savez si Mylène Farmer a entendu cette version ou pas ?
Non, je sais pas, j'ai jamais rencontré Mylène Farmer, mais j'aimerais bien la lui faire écouter un jour.
Eh bien, je peux vous annoncer qu'elle n'est pas là ce matin. On continue avec les non-surprises.
Mais en tout cas, j'étais j'étais étudiant à la fac quand il m'a contacté. Et ça faisait plaisir entre cette rencontre-là en 5e année et le duo avec Patrick Bruel en 2e année. Je pense que j'avais pas mal de bol pour un gars qui se destinait pas forcément à devenir chanteur, et puis je suis content que la vie m'ait proposé ces moments merveilleux.
Place maintenant au conseil de la rédaction de Télé Loisirs. Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Jade, bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Vous allez nous parler d'un nouveau talk show animé par Michel Simès sur France 2.
Exactement, et ça va s'appeler Antidote, hein. Retenez bien ce nom, un talk show diffusé tous les dimanches à 17h40, hein. C'est juste avant les enfants de la télé, la première c'est demain. Alors de quoi ça va parler? Évidemment de santé, hein, le domaine de prédilection de Michel Simès, mais attention, hein, ça se veut léger, hein, pas prise de tête. L'idée c'est vraiment de s'amuser, hein, autour de la médecine, de tester ses connaissances de manière ludique, hein. Vous verrez, il y aura plein de quiz, des expériences, et en plus chaque semaine, hein, la présence d'un invité fil rouge, et pour cette première, eh bien, c'est Thierry Lhermitte qui se prêtera au jeu.
Alors dans cette nouvelle émission, Michel Simès sera entouré d'une bande de chroniqueurs, comment dire, assez originaux. Pouvez nous raconter?
Absolument. Déjà, vous aurez un mentaliste dans la bande, hein. C'est pas banal. Il s'appelle Fabien Olicard. Il interviendra notamment sur des questions liées au cerveau, hein. C'est vraiment un spécialiste du sujet. Autre chroniqueur, Grégoire Gibault. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une star, hein, sur les réseaux sociaux. Il se fait appeler Major Mouvement, hein. C'est son pseudo. C'est un kinésithérapeute qui est suivi par plus de 2 millions de personnes. Enfin, vous aurez Farah Kessri, hein, qui est vétérinaire, ainsi que Cécile Djunga, comédienne et humoriste, qui sera un petit peu là, vous le verrez, hein, la testeuse de l'équipe et tout ça. C'est donc à découvrir dès demain à 17h40, on l'a dit, sur France 2.
Merci beaucoup Rémi Jacob. Autre émission à ne pas louper demain soir sur France 5, Sur le front, enquête événement du journaliste Hugo Clément sur le scandale des dauphins tués au large de nos côtes. On en parle avec lui juste après ça. À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Je me demande encore et encore d'où vient ce cœur de fer. Quand elle se donne corps à corps, elle me ramène sur terre.
Un extrait de la chanson Douce Guerrière que l'on retrouve sur votre album, Amir.
Ce titre, il vous a notamment été inspiré par la jeune militante écolo Greta Thunberg. Hein.
Entre autres, oui.
Eh bien, vous pourriez maintenant écrire Doux Guerrier pour celui qui vient de nous rejoindre en studio, qui éveille lui aussi nos consciences écolo avec son émission sur France 5. Bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Doux Guerrier, ça vous irait comme petit surnom?
Oh, c'est mignon, Doux Guerrier.
Ouais. Vous connaissez avec Amir en plus, hein, puisque là, vous expliquiez juste avant qu'on prenne l'antenne que vous étiez dans les coulisses de l'Eurovision à l'époque pour Petit Journal, c'est ça, l'année où Amir se
quotidien,
présentait.
Je crois, c'était en
quotidien 2016.
Ouais, c'était quotidien
déjà.
Ouais, à Stockholm, en Suède, et j'y étais pour couvrir les coulisses, et c'était l'année où Amir était là. Ouais.
Bon, alors on connaît la maison, hein. Vous aviez dit quoi comme saloperie sur Amir à l'époque?
Je n'avais dit aucune saloperie sur Amir. On s'était plutôt concentré sur les enjeux géopolitiques entre les candidates des pays de l'Est, notamment
les candidates
ukrainiennes, russes. Etc.
Oui.
Et on avait filmé Amir, mais c'était très sympathique et il n'y avait pas de moquerie, je crois.
C'est bien marré. Faut dire que j'ai pas énormément adressé la parole à Hugo, mais je me fais un plaisir de le suivre et de voir son combat sur les réseaux sociaux. Je trouve ça remarquable.
Et alors attendez demain soir à ne pas louper cette émission.
Oui.
Hein.
C'est un nouveau numéro de votre émission Sur le front, consacré cette fois aux dauphins. Car il est urgent d'agir. La France possède un bien triste record.
Oui. On est le pays en Europe qui tue le plus de dauphins.
Non, mais c'est incroyable.
Environ 10 000 dauphins chaque année sont tués par les filets de pêche français.
Ça démarre par accident, hein, il faut bien le préciser.
Des captures accidentelles. Alors, on révèle dans ce documentaire, on va peut-être en parler, qu'il y a aussi, selon certains témoins, des destructions volontaires, mais c'est très marginal. La majorité des dauphins qui sont tués en France le sont par les filets de pêche, effectivement. Et on a été rappelé à l'ordre plusieurs fois en tant que pays par l'Europe, qui demande des mesures fortes au gouvernement français pour limiter ce massacre. Et pour l'instant, malheureusement, presque rien n'est fait.
Certains spécialistes estiment même, hein, que ces morts par accident pourraient à terme menacer la survie de l'espèce. Ça va jusque-là?
C'est ce que nous ont dit les scientifiques spécialistes des dauphins dans ce documentaire. En 10 ans, on estime qu'il y a environ 100 000 dauphins qui ont été tués en France. Donc évidemment, c'est des niveaux de capture qui sont tellement élevés que ce que nous disent les scientifiques, c'est que si ce niveau de capture se maintient, petit à petit, ça va conduire inévitablement à un effondrement de la population.
Alors la pêche accidentelle de dauphins est un sujet extrêmement tabou dans le monde des marins-pêcheurs, mais vous avez quand même réussi à obtenir, sous couvert d'anonymat, un témoignage absolument édifiant.
Ça arrive souvent de prendre un dauphin?
J'étais sur un 10 mètres et j'en prenais 3 par mois.
Et qu'est-ce que vous en faisiez en les remontant à bord?
Le patron prenait les steaks pour la revente. C'est de la viande rouge, hein, qui se mange depuis très 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 longtemps en Bretagne, sur la côte ouest. C'est un marché noir qui existe depuis très longtemps.
C'est complètement illégal de manger du dauphin?
C'est illégal, c'est illégal.
Il existe donc un marché noir de la vente de steaks de dauphins. C'est ce que nous apprend notamment votre enquête.
Et c'est ce que nous dit ce témoin. Effectivement, c'est un sujet tabou parce que ce qui se passe en mer, ce qui se passe au large, par définition, c'est quelque chose qui est loin des yeux, loin des caméras. C'est très difficile d'enquêter dessus et de contrôler. Et donc, effectivement, ce témoin et d'autres nous ont rapporté qu'il y avait une tradition de consommer la viande de dauphin qui était remontée à bord. Et ce même témoin nous dit même que certains marins pêcheurs harponnent volontairement des dauphins lors de sorties en mer.
La situation, elle est intolérable. Pourtant, des solutions existent.
Des solutions existent. Alors, ce que préconisent les institutions européennes, c'est de réduire, voire d'arrêter totalement la pêche à certaines périodes, à certains endroits, pour éviter les zones de chasse des dauphins. Parce qu'en fait, les dauphins, ils sont pris dans les filets, parce qu'ils chassent les mêmes poissons que ceux qui sont pêchés par les pêcheurs. Par exemple, le merlu, le bar, le dauphin adore ces poissons, nous aussi. Et donc, les dauphins se retrouvent au milieu des filets qui pêchent ces poissons-là et se retrouvent capturés de manière accidentelle. Donc, une des solutions qui est préconisée, c'est effectivement de réduire la pression de pêche. Ça induit de consommer un petit peu moins de poissons.
Et pour l'instant, la France ne suit pas.
Pour l'instant, la France ne suit pas. Alors, le gouvernement a annoncé des mesures, des études pour essayer de mieux comprendre ces captures accidentelles, mais rien de concret pour le moment.
Pointer du doigt, comme vous le faites, la responsabilité de l'État français quand on est sur une chaîne de services publics, Hugo Clément, ça ne va pas être extrêmement simple non plus, ça n'a pas trop fait grincer les dents à la direction.
C'est la beauté, la force du service public de la télévision en France et de la radio aussi, c'est que on est totalement indépendant, on est préservé de toute forme de pression et on a une direction à France Télévisions qui nous protège complètement. Des pressions, si elles existent, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, elles ne reviennent jamais jusqu'à nous et on peut faire notre travail complètement librement.
Là, vous n'avez pas eu à en subir, en tout cas, sur cette enquête, pas plus que sur
pas
les autres d'ailleurs.
Il y a eu des pressions, mais côté de l'industrie de la pêche, voilà, avec certaines menaces, certaines manières de nous expliquer qu'il faudrait mieux s'écarter de ce sujet. On le voit d'ailleurs dans le reportage, qui est aussi un reportage d'espoir où on accompagne les combattants, les activistes, les scientifiques qui se mobilisent pour sauver ces dauphins et qui, eux, sont beaucoup plus menacés que nous, qui reçoivent même des menaces de mort.
Voilà, des militants qui s'engagent pour la défense des dauphins. Vous avez notamment suivi une activiste qui n'hésite pas à aller au plus près des bateaux de pêche, dans une ambiance parfois très très tendue.
L'ambiance a changé au large. La tension entre certains pêcheurs et les militants est encore montée d'un cran. L'embarcation de l'association est désormais régulièrement prise en chasse. Les militants reçoivent des menaces bien plus inquiétantes encore sur les réseaux sociaux.
Il y a eu des menaces vraiment très très claires sur le fait que il fallait fusiller les activistes, les décapiter, brûler le bateau.
Hugo Clément, vous qui traitez des sujets souvent très sensibles, ça vous arrive à vous aussi de recevoir parfois des menaces sur les réseaux sociaux ?
Ça nous arrive bien sûr de recevoir des menaces. Après nous, on va sur un sujet et puis on rentre chez nous. Les gens qui sont vraiment les plus exposés aux menaces, c'est ceux qui vivent sur place, qui toute l'année sont au contact de leur combat et qui eux ne rentrent pas, ne peuvent pas rentrer. Donc oui, on reçoit des menaces, mais ceux qui sont vraiment en première ligne, c'est les gens sur le terrain qui se battent pour ces choses-là.
Auparavant, on le disait, vous étiez journaliste chez Yann Barthès, vous n'hésitiez pas non plus à prendre des risques avec des militants politiques parfois très très énervés, on s'en souvient. Ma question sera donc très simple. Est-ce que vous êtes maso, Hugo Clément? Est-ce que vous aimez vous faire insulter?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Par contre, je pense que c'est aussi le rôle des journalistes de mettre le doigt là où ça fait mal, même quand ça mécontente certaines personnes.
Vous avez eu peur parfois?
Oui, bien sûr, ça m'arrive d'avoir peur pendant les reportages et je pense que c'est sain d'avoir peur parce que ça évite aussi certaines erreurs. Il faut marcher au feeling, quoi. Il y a des moments où on a peur et du coup on n'y va pas et on se préserve. Le plus important, c'est la sécurité de l'équipe, mais ça nous empêche jamais de mener les enquêtes à bien. Et à chaque fois qu'on revient du terrain, et je pense qu'on le verra dans ce documentaire, on est requinqué par l'espoir que nous communiquent ces gens-là, quoi. Les militants, les scientifiques qui consacrent leur vie à protéger les animaux, les espèces, les écosystèmes, ils nous transmettent ces good vibes, voilà, pour utiliser un anglicisme, et on revient rebooster autant qu'ils le sont sur le terrain.
Et enquêter dans les coulisses de la politique, comme vous avez pu le faire par le passé, c'est définitivement fini pour vous, ou la présidentielle arrivant, l'idée se réveille?
Alors, mon expérience, petit journal à quotidien, m'a appris qu'il ne faut jamais dire jamais dans les médias. Il ne faut jamais dire je ne ferai jamais ci, parce que si ça se trouve, dans 10 ans, on va me ressortir la vidéo.
Dès l'année prochaine, peut-être, avec la présidentielle,
voilà,
Hugo.
Donc, je ne dis jamais jamais. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. J'ai fait déjà beaucoup de journalisme politique avec le petit journal et quotidien. J'avais adoré traiter la politique avec cet angle-là, ce regard-là. Le journalisme politique plus classique m'intéresse moins à titre personnel, mais pourquoi pas un jour remettre les mains dans la politique en tant que journaliste, sachant que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une manière de traiter la politique, puisque les politiques ont un énorme rôle à jouer dans la préservation de l'environnement. Malheureusement, pas suffisamment pris au sérieux ce rôle pour l'instant.
Merci Hugo Clément. On vous regarde demain soir sans faute à 20h50 sur France 5 sur le front des dauphins. C'est passionnant, j'imagine, Amir, que vous a donné envie de regarder. Hein.
Oui, de toute façon, j'aime beaucoup ce que Hugo fait et je trouve que c'est toujours passionnant à suivre de la première à la dernière minute. C'est super bien monté, c'est des sujets intéressants. Et puis, je te trouve avant-gardiste parce qu'on devient tous de plus en plus conscients de la cause animale, de la nature autour de nous. Donc, ça fait plaisir d'avoir une source d'information.
Merci, ça me touche beaucoup.
Amir, merci beaucoup.
Merci d'avoir été
avec nous. En attendant de vous retrouver sur scène, on vous écoute à la maison. Ressources, c'est le nom de votre album, qu'on vous offre dédicacé par Amir, bien sûr, sur le compte Twitter d'On Refait la Télé.
Parce que par nous, ça n'aurait aucun intérêt.
Oui. Oui. C'est vrai.
C'est une logique implacable, finalement.
Vous chantez moins bien, quand même.
Merci beaucoup, Amir.
Merci à vous.
Un autre chanteur à votre place samedi à 11h30, sans doute un pote, c'est Clodo Capéo sera avec nous.
Bien sûr.
Merci, Jade.
Mais ce fut un plaisir.
Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. L'appli RTL pour le replay de cette émission. On vous laisse avec le journal inattendu d'Ophélie Meunier et on va retourner en mer justement puisqu'elle reçoit aujourd'hui le navigateur Jean Le Cam. Bon week-end avec RTL. Ciao, ciao.
Salut.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.